Radio Okapi.
Plusieurs réactions après l'annonce de la réflexion du FCC sur l'élection du président au second degré. Chercher à réviser la loi électorale aujourd'hui et évoquer les difficultés financières pour ne pas élire le président de la République au suffrage universel direct n'est qu'un prétexte du FCC, dit l'UDPS. Les professeurs de l'Université pédagogique nationale UPN décident de lever leur mouvement de grève observé depuis peu avant l'état d'urgence. Cette décision des professeurs est prise au lendemain de leur réception par le président de la République. Ils estiment que la réponse du chef de l'État les rassure. La MONUSCO, les FARDC et les autorités administratives du territoire de Beni ont visité vendredi dernier Moutangwa, chef-lieu du secteur de Rwenzori dans le territoire de Beni. La délégation mixte est allée faire un état des lieux de la situation sécuritaire caractérisée par des attaques à répétition des ADF. Nous en parlons dans ce journal avec notre invité Esso Essis, chef de bureau intérimaire de la MONUSCO au Grand Nord. Voilà pour les titres à toutes et à tous. Bienvenue à ce journal sur votre radio. Vous l'avez certainement suivi hier sur nos antennes, un groupe de cadres du FCC souhaite que le prochain président de la République soit élu au Parlement. C'est pour réduire les contestations et les coûts de l'organisation des élections. Nous avons enregistré un flot de réactions à cette réflexion du FCC. La première vient de l'UDPS, le parti présidentiel. L'Union pour la démocratie et le progrès social n'est pas d'accord avec les propos tenus par les cadres du FCC sur la réforme électorale. Pour l'UDPS, chercher à réviser la loi électorale aujourd'hui et évoquer les difficultés financières pour ne pas élire le président au suffrage universel direct n'est qu'un prétexte du FCC. Cette coalition veut tout tailler sur mesure pour plaire à Joseph Kabila, son autorité morale. C'est en tout cas ce que pense le secrétaire général de l'UDPS. Je vous propose d'écouter Augustin Kabuya au micro de Vicky Odia.
Chercher à revisiter la loi électorale aujourd'hui et évoquer les problèmes de finances, moi je vous dis que c'est un prétexte. Ils ont un agenda caché. Ils ont géré ce pays avec cette même loi. Ils avaient tout taillé sur mesure pour plaire à leur autorité morale. La loi en elle-même n'a aucun problème. Ce n'est pas la loi électorale qui a toujours demandé aux animateurs politiques de bourrer les urnes. Ça s'est fait intentionnellement. Les amis ne sont pas sincères. Ils sont conscients. Ils se sont servis de cette loi électorale pendant tout le temps que leur autorité morale était au sommet de l'État. Ils n'ont jamais posé de problème. Nous, au niveau de l'UDPS, nous n'accepterons jamais que les choses se passent de cette manière-là. Ils doivent s'assumer, ils doivent laisser cette loi-là en vigueur. Je vois très mal que notre peuple puisse accepter qu'on le prive d'élire son président sous prétexte que non, il n'y a pas l'argent. C'est un faux débat. Nous ne sommes pas concernés ni de près ni de loin par cette démarche-là.
Pour le constitutionnaliste Jacques Joly, également cadre du MLC de Jean-Pierre Bemba, la suggestion de Ngoï Kassanji d'élire le président de la République au Parlement est totalement en inadéquation avec la constitution congolaise. Elle risque en outre de mettre la démocratie congolaise en danger, estime Jacques Joly. On l'écoute au micro de Paul Matendo.
Je crois que cette personne doit se ressourcer dans l'esprit et dans la lettre de notre Constitution. Ce qu'il souhaite est totalement en inadéquation avec notre Constitution. Le suffrage universel direct est un droit conquis et acquis par le peuple congolais et qui est d'ailleurs verrouillé à l'article 220. Il aura dit qu'on parle du suffrage universel, mais il faut qu'il lise l'alinéa 2 qui dit que le droit et liberté garantie aux particuliers sont verrouillées et on ne peut pas rétropédaler. Ça, c'est sur le plan du droit. Je crois aussi que la personne que vous citez, elle est frappée par le syndrome de conservation ou de retour au pouvoir et il veut tout simplement mettre la démocratie congolaise en danger et cette forme de mutation ou de coup d'état constitutionnel qu'ils veulent opérer, le peuple congolais qui a le devoir, suivant l'article 64, de défendre sa constitution, assumera avec vigilance sa mission de protection de cette constitution.
Le scrutin présidentiel à deux tours permet de consolider la légitimité du chef de l'État. C'est ce que pense Chérubin Okende, cadre du regroupement Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Pour lui, l'élection du président de la République par les parlementaires va favoriser la fraude électorale. Il pense que cette suggestion fait partie d'un plan qui viserait la destitution de l'actuel chef de l'État. Chérubin Okende le dit à Axel Goncho.
D'abord, l'unique tour ne consolide pas la légitimité du président de la République. C'est l'institution suprême du pays. Nous nous retrouvons avec un président de la République, pas élu par la majorité des électeurs congolais, mais le second degré préfigure un hold-up électoral avec la corruption qui règne. L'exemple des sénateurs et des gouverneurs récemment qui sont passés par coup de corruption nous donne encore une fois la ligne du FCC pour préméditer la fraude électorale et nous amener dans un hold-up électoral. Le FCC devrait être capable de laisser l'audit du rapport de gestion de la CENI à l'Assemblée nationale. Ils sont en train de bloquer cela pour que la vérité des chiffres ne puisse pas être exhumée. D'ailleurs, l'élection présidentielle coûte en soi 300 millions de dollars. Ça peut nous permettre, avec la nouvelle technologie, de mieux organiser cela. Je voudrais ici attirer l'attention de Cash et de Best, parce que ces manœuvres du FCC préfigurent aussi la destitution du président de la République par les deux chambres. Ils savent quelles sont les manœuvres qui sont en train de régenter pour arriver à cela.
Une autre réaction, c'est celle de la société civile. Christopher Ngoï, qui en est le coordonnateur, rejette l'idée de l'élection présidentielle au second degré et parle d'une intelligence nuisible qui est de nature à créer le chaos. Christopher Ngoï, joint au téléphone par Jean Gandou.
C'est une intrigue, c'est une intelligence nuisible par rapport au souverain primaire qui, selon l'article 5 de la Constitution, doit choisir directement ses représentants des institutions. Les FCC sont en train de montrer que, en perte de vitesse, ils veulent contourner justement ce souverain primaire. Je vous dis avec tous ceux qui ont connu la confusion autour de la CENI, la configuration actuelle au niveau du Parlement et qui ne reflète pas la réalité sociologique. Nous n'accepterons pas qu'il y ait des présidents choisi par un groupe d'individus qui eux-mêmes dans l'élection posent également beaucoup de doutes et que ces gens puissent nous diriger. Ça, c'est entraîner le pays vers un chaos inutilement. Nous déconseillons une telle approche et tous ceux qui vont soutenir cette approche seront tenus responsables de ce qui va advenir. Raison pour laquelle nous ne nous trompons pas en récoltant les signatures à travers le pays pour une pétition qui demande la dissolution de cette Assemblée nationale. Elle est à la base de toutes les crises que nous connaissons et continue à peaufiner d'autres crises à venir.
Jérôme Bonson, quant à lui, expert en questions électorales, il dirige également la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes. Il estime, lui, que dans l'environnement socio-politique actuellement agité en RDC, il est difficile de faire passer la réforme visant à élire le président de la République au second degré. Il invite tous les acteurs politiques à la prudence car la réforme de la loi électorale dans le sens voulu par les cadres du FCC entraînerait la révision de la Constitution. Jérôme Bonso, joint au téléphone par Blaise Chindani.
Nous nous trouvons dans quel environnement électoral? Notre environnement électoral actuel est-il apaisé ou agité? Nous sommes d'accord que l'environnement électoral actuel est agité. Est-ce qu'on peut introduire ce genre de réforme au niveau de la loi électorale? Parce que ça va toucher aussi la loi fondamentale qui est la Constitution. Certains articles intangibles, quand on fait allusion à l'article 220 de la Constitution, il nous est interdit de toucher aussi ce qui est trait au suffrage universel. Point. On n'a pas dit suffrage universel indirect ou direct. Au suffrage universel. Mais maintenant, nous nous posons la question. Si c'est pas par manque d'argent qu'on peut recourir à cela, mais on a oublié qu'il y a un autre élément important, c'est nous nous trouvons dans l'environnement des crises de confiance. Nous disons, on a tout intérêt à faire attention et au contexte et à l'environnement électoral et le contexte politique qui sont agités. Et c'est dans cette turbulence sociopolitique, on a difficile à faire passer une réforme quelconque.
Autre chose, mais Toujours en politique, le professeur Raphaël Nyabirungu recommande au président de la République de rapporter ses ordonnances du 17 juillet dernier nommant de nouvelles personnalités dans la magistrature civile et militaire. Au cours d'une conférence de presse qu'il a animée hier mardi ici à Kinshasa, l'avocat pénaliste a affirmé que le président Tshisekedi a violé de manière intentionnelle 9 articles de la Constitution dans ses différentes nominations. Il propose plusieurs pistes de solutions, dont le dialogue permanent entre les coalisés au pouvoir, l'intervention du Parlement, du CNSA et de la MONUSCO en vue d'éviter au pays une crise institutionnelle. Reportage Jeff Ngoy.
Du point de vue de la violation de la Constitution dans la magistrature civile et militaire, le professeur Raphaël Nyabirungu cite quelques articles.
L'article 1er, alinéa 1er de la Constitution, violé par les ordonnances en ce que celles-ci ont conféré au président de la République des pouvoirs exorbitants. L'article 12, violé par les ordonnances, en ce qu'elles ont remplacé deux magistrats de la Cour constitutionnelle, alors que leur mandat était toujours en cours.
En ce qui concerne les établissements publics dénommés Autorité de régulation de l'électricité et la CNRF,
sont visés les responsables des services et établissements publics. Les ordonnances intervenues en la matière sont contresignées par le Premier ministre.
Et parmi les pistes de solution, il propose.
Nous sommes gouvernés par un accord dont le premier engagement est de respecter la Constitution. Les coalisés doivent se parler. Je leur rappelle cet enseignement. Certes, le dialogue est insuffisant, mais il demeure nécessaire et jamais achevé.
Le professeur invite le chef de l'État au respect des principes d'un État de droit à consulter sa famille, notamment sur ce qui a guidé le combat de son père et des 13 parlementaires. Cela sauverait, pense-t-il, la passation civilisée des pouvoirs en RDC.
Troisième jour, aujourd'hui mercredi, de la session ordinaire de l'examen d'État, les finalistes du secondaire seront soumis à leur épreuve écrite de langue. Hier, ils ont passé l'examen de cours spécifiques liés à leur filière. Adolphine Ngoyi est allée à la rencontre des élèves du collège Bokeleale ici à Kinshasa. Ils lui ont dit comment ils ont répondu à leur examen du deuxième jour.
Je m'étais préparé davantage. C'est bon pour moi, mais pour certaines personnes, jusqu'à présent, ils ne sont pas encore sortis parce que ils ont jeté des cahiers, ils n'ont pas voulu faire de recherche parce que on a fait 4 mois de confinement à la maison.
Aujourd'hui, venons de présenter les parties importantes. 5 cours d'options vient en classe. Nous autres, nous allons dire que ça a été facile.
Et toujours dans la capitale, ici à Kinshasa, des élèves aveugles et autres atteints de surdité passent également ces épreuves d'examen d'État 2020. C'est ce qu'a constaté Irène Essambo, ministre en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, lors de sa tournée effectuée le lundi 7 et mardi 8 septembre dans quelques centres de Kinshasa. Paul Matintou pour plus d'éclairage.
Il s'agit pour Irène Essambo de palper du doigt les conditions dans lesquelles ces enfants atteints d'handicap passent leurs examens.
C'est une autre catégorie d'enfants qui a un problème de surdité et qui a besoin d'interprètes. Alors nous voulons nous rassurer si ces besoins-là sont vraiment aussi pris en compte.
Du côté des organisateurs, Max Kasonga, inspecteur du centre d'Eliti Gombe, rassure que 7 sourds-muets sont assistés ici par des interprètes.
Il y a 3 filles et 4 garçons. Hein, on les a mélangés avec les autres sans handicap. Il y a des traducteurs pour eux. Nous en avons reçu 2.
Cependant, une préoccupation relevée par la ministre en charge des personnes vivant avec handicap, c'est la traduction des items en écriture braille pendant que les élèves sont déjà dans la salle d'examen.
J'ai vu qu'on était en train de traduire sur place. Pour moi, je pense que c'est un problème qui demande une profonde réflexion et voir comment améliorer cela. Ça doit être dans le cadre d'un système général.
Irène Essambo insiste pour l'amélioration de l'éducation spécialisée afin que tous les enfants atteints d'handicap bénéficient des réformes initiées dans ces secteurs.
Bonne nouvelle pour les étudiants de l'UPN, entendez l'Université Pédagogique Nationale ici à Kinshasa. Les professeurs membres de l'APUPN ont levé hier la grève qu'ils observent depuis avant la période de l'état d'urgence. Dimanche dernier, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait reçu une délégation de professeurs de cette université. Ces derniers lui ont présenté leurs doléances. Au nombre de celles-ci, un salaire décent fixé selon le standard de l'UNESCO, le paiement du manque à gagner 2019 2018-2019, la suspension de l'impôt prélevé sur les rémunérations, les réponses du chef de l'État ont convaincu les professeurs de l'UPN qui ont décidé de sauver l'année académique en cours. Je vous propose d'écouter le coordonnateur de l'APUPN, l'association des professeurs de l'UPN, le professeur Raoul Ekwampok, au micro de Jean-Didier Ogobani.
L'Assemblée générale extraordinaire a salué la démarche menée par les comités exécutifs de l'APUPN et a apprécié à sa juste valeur la précieuse disponibilité et la bonne foi du chef de l'État, notre dernier rempart, quant à l'amélioration des conditions de vie et de travail des professeurs de la RDC et de tous les personnels de l'ESU en général et de ceux de l'Université pédagogique nationale en particulier. Par conséquent, l'Assemblée générale extraordinaire de la PUPEN a décidé à l'unanimité de suspendre la grève en cours en s'en tenant à la bonne foi affichée par le président de la République, chef de l'État, dernier rempart, notre dernier rempart.
Actualité internationale.
L'actualité en dehors de la RDC, l'Italie a achevé mardi l'évacuation de quelques 2400 migrants depuis des centres de rétention sur l'île Lampedusa vers la Sicile, a annoncé une agence de presse italienne. Un dernier navire de quarantaine a quitté Lampedusa mardi avec pour destination le port sicilien d'Augusta, selon l'agence AGI. Les pourparlers réunissant au Maroc des parlementaires des deux camps rivaux libyens, le gouvernement du Union à l'ouest et un pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar à l'est ont débouché sur d'importants compromis, a rapporté mardi l'agence marocaine de presse. À l'initiative du Maroc, le dialogue libyen réunit depuis dimanche deux délégations de 5 députés issus du Haut Conseil d'État libyen à l'ouest et du Parlement de Tobrouk à l'est, en présence du ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita. Les deux parties espèrent obtenir des résultats positifs et concret, susceptible d'ouvrir la voie à l'achèvement du processus d'un règlement politique global.
L'invité.
Place à présent à l'invité de ce journal. Je vous le disais, une délégation mixte MONUSCO et FARDC, autorité administrative du territoire de Beni, s'est rendue le vendredi dernier à Mutuanga, chef-lieu du secteur de Rwenzori dans le territoire de Beni. Objectif, faire un état des lieux de la situation sécuritaire caractérisée par des attaques à répétition des ADF. La teneur de cette mission et les pistes de solutions pour mieux protéger les populations civiles. Esso Essi, chef de bureau intérimaire de la MONUSCO Grand Nord, répond à ce sujet aux questions de Sekombi Katondolo.
Bonjour, Sekombi.
Récemment, vous avez été à Mutuanga. Peut-on savoir l'objectif de cette mission?
Très heureux de cette opportunité de m'adresser encore aux auditeurs de la radio Okapi. Nous avons effectué une visite vendredi dernier à Mutuanga. Alors, c'est une visite très importante parce qu'elle a suivi plusieurs mois d'expression de sentiments contre la MONUSCO liés essentiellement aux attaques qui sont effectuées par des présumés ADF dans la zone depuis le début de cette année. Donc, il y a eu un concentré d'attaques de ADF dans la zone qui ont conduit les populations locales à exprimer leur mécontentement vis-à-vis des forces armées républicaines de ce pays, mais également de la MONUSCO qui a le mandat d'assurer ou en tout cas d'aider à assurer la sécurité des populations civiles contre les attaques de quelques groupes armés que ce soit.
Parlant effectivement de cet état de confiance, quel est l'état des lieux sur place une fois vous avez été? Comment vous avez trouvé la situation d'abord humanitaire, sécuritaire et aussi la collaboration avec la MONUSCO et la population locale?
Mais cette rencontre a permis effectivement de faire cet état des lieux. Donc les populations nous ont donné la parole pour expliquer la manière dont les FARDC abordent cette opération, le rôle de la MONUSCO dans le cadre des opérations offensives contre les FARDC, l'état des relations entre la MONUSCO et les populations, l'état des relations entre la MONUSCO et les FARDC, et c'est comme ça que nous avons pu nous rendre compte qu'il s'agissait en fait d'un dépit amoureux lié à la manière dont les événements se sont passés entre le retrait des dernières bases de la MONUSCO à Mutuanga, qui sont restées près de 8 ans. Le retrait de ces bases de la MONUSCO face à la demande d'utilisation de nos forces dans d'autres secteurs, dans d'autres aspects, dans d'autres zones de notre zone de responsabilité. Ce retrait qui a été fait contre l'avis des populations et le fait que après ce retrait, il y a eu des attaques dans la zone. C'est la frustration d'avoir vu partir la MONUSCO qui rassurait et de voir que les attaques ont suivi, qui ont fait que les populations ont dit non, mais peut-être que la MONUSCO voulait de ces attaques, peut-être qu'elle s'est retirée pour permettre ces attaques. Donc c'est juste cette mauvaise conjoncture des choses. Et donc il a fallu expliquer, nos ressources sont limitées, les besoins en hommes, en ressources militaires sont illimités dans cette zone, et que parfois nous sommes obligés de faire ce genre de choix.
Monsieur Issou, si vous avez parlé de tout ce que vous avez rencontré là-bas, maintenant que vous avez franchi cette première étape, quelle est la prochaine étape concrètement sur le terrain?
Merci pour cette question. La prochaine étape est une étape qui va se jouer sur un seul concept, un seul mot, domination. Il s'agit de dominer l'espace. Et cette domination, la plupart du temps, quand nous en parlons comme quelque chose que les militaires font. Ils dominent le territoire par leur patrouille, par leur présence, dominer le territoire pour éviter que l'ennemi ne puisse déborder sur plusieurs positions pour pouvoir attaquer dans l'impunité. Donc il faudra dominer le territoire, et afin de pouvoir dominer le territoire, dans le cadre de nos discussions, les populations s'étant montrées favorables à la présence de la MONUSCO, nous entendons très rapidement, le plus rapidement possible, pouvoir établir quelques bases de la MONUSCO dans la zone pour permettre de projeter la force de la MONUSCO à côté de celle des FRDC pour prévenir les attaques contre les populations locales. Je ne dirai pas le nom des endroits où les bases seront postées, mais ce sont des endroits stratégiques qui vont permettre à nos forces de se projeter plus facilement. Donc l'intérêt de ces déploiements-là seront de rapprocher ces troupes du lieu de théâtre d'opération pour qu'ils puissent être plus efficaces et intervenir plus rapidement. Mais aujourd'hui, nous élargissons le concept de domination à la domination également de l'espace palais civil. C'est-à-dire que nous allons devoir renforcer nos activités d'engagement communautaire, de présence avec les communautés, d'orientation des communautés, de renforcement des mécanismes d'alerte précoce pour que les informations que perçoivent la communauté sur les mouvements de l'ennemi puissent être efficacement relayées et directement, en toute confiance, vers les personnes qui sont chargées au niveau civil de collecter ces informations et d'aider ou d'orienter les actions des FRDC, de la PNC, des chefs locaux pour prévenir ces attaques.
Monsieur Issou, ici, la Radio Capi vous remercie.
Merci infiniment.
Issou Issis, chef de bureau intérimaire de la MONUSCO au Grand Nord, répondait aux questions de Sekoumbi Katondolo. C'est lui l'invité de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal complètement terminé maintenant. Vous pouvez le réécouter sur www.radiocapi.net.